Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Il y a bien des affaires qui se passent sur le campus. On est là pour t'aider à suivre tout ça. Le 12.
Ça part ici.
Vous êtes de retour au 12 et puis maintenant, ben, on rejoint Natacha Gay-Marchand pour nous parler un peu de la nouvelle édition, mais de l'édition de la semaine dernière, en fait, du collectif. Salut Natacha, ça va bien?
Salut, ça va très bien, merci.
Une grosse édition la semaine passée, comme toujours. Tu veux commencer d'entrée de jeu par l'événement qui s'est produit le 29 septembre dernier, soit la fameuse Marche pour le climat.
Oui, exactement. Fait que dans le fond, septembre, c'est le mois où est-ce qu'on rappelle les enjeux climatiques. Puis durant la grande marche pour le climat qu'il y a eu à Sherbrooke, il y a près de 2 milliers de personnes qui ont participé, donc c'est quand même beaucoup.
Ouais.
Où est-ce qu'on a vu le slogan affiché « Justice sociale, justice climatique, même combat ». Donc, ça fait aussi appel que oui, on n'a pas encore fini les progrès pour les changements climatiques, mais aussi pour la justice sociale. Mm-hmm. Par exemple, durant cette marche-là, on a rappelé qu'il y a des avancements. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Puis le gouvernement refuse encore, par exemple, de donner du financement supplémentaire à l'Union des municipalités du Québec pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique. Où on voit un peu qu'il y a une réticence dans les services publics.
Ouais. Ben, tu sais, justement, on l'oublie des fois, mais l'environnement, tu sais, c'est comme un enjeu, comment dire, multi, qui touche plusieurs facettes de la société. Là, oui, c'est évidemment l'environnement. Veut pas la pollution, la qualité de l'air et tout, la qualité de vie, mais c'est ça. Éventuellement, ça va toucher les soins de santé, ça va toucher aussi, tu sais, en tout cas, ça, c'est vraiment un thème qui ratisse large. Et puis souvent, ces marches-là, c'est une occasion de rappeler justement les autres enjeux qui sont connexes.
Oui, exactement, tu le dis bien, ça touche plusieurs facettes, puis nécessairement quand l'environnement affecte une partie sociale, mais ça a des impacts.
Oui, exact. Donc, on espère, on lance encore un message au gouvernement caquiste pour le meilleur financement de nos municipalités parce que c'est eux qui doivent gérer au quotidien ces enjeux-là. Tu veux nous parler maintenant, niveau culture, d'une grève des auteurs qui s'est finalement réglée?
Oui, exactement. Là, c'était un peu compliqué parce que récemment, il y avait la grève des scénaristes avec les studios d'Hollywood et puis on avait vu qu'un accord avait été conclu. Il avait suggéré, il y avait demander de continuer la grève malgré tout jusqu'à temps que l'accord soit signé et accepté. Maintenant, les acteurs ont demandé également des nouvelles conditions. Ont réclamé aussi de meilleurs salaires, des protections contre l'intelligence artificielle comme les scénaristes ont eu. Par contre, les studios ont coupé sec les grèves et ont dit que ça irait nulle part parce que l'écart entre les ententes qui ont été acceptées avec les scénaristes était trop grand par rapport à ce que les acteurs demandaient. Donc, ils ont juste coupé court à tous les grèves.
Ouais, ben c'est ça. Ben en même temps aussi, j'imagine que les acteurs, tu sais, ils ont des conventions collectives, en tout cas, c'est ces fameux accords-là qui sont pas nécessairement échus en même temps que les scénaristes, effectivement. Les scénaristes, on sait qu'ils ont eu quand même des belles avancées avec tout ça, là, protection justement.
Contre l'intelligence artificielle. Ouais,
contre l'intelligence artificielle, mais en fait, c'est que certaines protections, effectivement, pour que les studios ne puissent pas, à l'insu des scénaristes, utiliser l'intelligence artificielle. Ceci dit, moi, c'est ce que je trouve intéressant parce que moi, au niveau de l'intelligence artificielle, je suis pas contre ce concept-là, même je trouve que c'est positif puis que ça peut nous amener plus loin. Mais là, ça revient vraiment au scénariste de décider si lui ou non veut utiliser l'intelligence artificielle. Puis ça, je pense que c'est... Ça va peut-être être, à ma connaissance, c'est peut-être un des premiers accords là, qui inclut vraiment l'intelligence artificielle dans toutes les sphères de la société. Là, même au niveau, en ce moment, dans l'éducation, on se questionne à savoir est-ce que on encadre cette intelligence artificielle-là. Pour l'instant, c'est un no man's land un peu. Là. Les gens l'utilisent des fois puis on s'en rend pas compte. Je trouve que ça va peut-être être justement porteur pour d'autres accords là, qui touchent l'éducation, mais qui touchent vraiment toutes les sphères de la société sur l'intelligence artificielle. Fait que à suivre, évidemment. Moi, je suis le cinéma quand même beaucoup.
Comme tu dis, exactement, ça a un gros impact. Puis il y a une application qui est sortie récemment, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est une application de doublage qui permet en fait traduire dans plusieurs langues une vidéo. Mm-hmm. Puis les acteurs avaient notamment la peur que cette application-là se utilisés pour traduire, soit sans leur consentement, avec leur propre voix, ou en fait, qui perdent des emplois, que leur secteur d'emploi disparaisse complètement.
Ben, au niveau des acteurs aussi, ça va être très intéressant à suivre parce que là, tu sais, sur YouTube, il y a des deepfakes, là, fait que mettre le visage de quelqu'un sur un autre personnage, mais tu sais, il y a même la question de si un acteur meurt, est-ce qu'on recrée son visage puis on continue à lui faire des films au-delà de sa vie? Tu sais, il va voir ça. Il y a évidemment l'utilisation des voix et tout. Fait que ça va être un dossier très, très intéressant à suivre. Honnêtement, j'ai hâte de voir où ça va s'en aller. Probablement plus dans les restrictions que dans la liberté, là, mais c'est assez intéressant à suivre. Tu veux nous parler maintenant d'une élection, un quatrième candidat du PQ qui a été élu dans le comté de la circonscription en fait, de Jean Talon.
Oui, exactement. Il y a eu la victoire de Pascal Paradis dans la partielle de Jean Talon, comme je le disais bien, qui a eu une victoire assez écrasante, je dirais, pardon, de 44% des voix, alors que le candidat qui était en deuxième position, qui était de la CAQ, qui était Marie-Annick Chouari, a eu 21% des votes uniquement. Donc, c'est assez impressionnant de dire qu'en 2019, quand la CAQ a repris cette circonscription-là au Parti libéral, ça a été une grande victoire pour la CAQ avec Joël Poutin. Puis, en ce moment, avec le Parti québécois qui reprend cette circonscription-là, ça fait un peu comme un ressaut du Parti québécois, ouais. Un peu dans la vie politique.
Ben c'est ça, ça va avec la tendance qu'on remarque justement d'une recrudescence de la popularité du Parti québécois qui, on sait, l'a pas eu facile dans les dernières années. Là, souvent, un candidat, un élu, deux élus, ils sont rendus à quatre, là, c'est pas tant que ça, mais au niveau des intentions de vote aussi, ou même des pourcentages de votes qu'ils ont reçus, c'était quand même peut-être au-delà du nombre de votes là, qui est vraiment à l'Assemblée nationale. Fait que, ben, à voir où est-ce que ça va nous amener avec le PQ. Moi, j'ai toujours aimé ce parti-là, même si, c'est ça, il y a eu des petits creux de vague avec le temps.
Exactement.
La question nationale est moins à l'avant-plan, disons, qu'elle l'a déjà été dans les années précédentes. Mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est dur de dire son nom sans dire Saint-Chose Plamondon. Jean-René Dufort nous l'a mis dans la tête, puis je suis pas capable de le dire autrement. Mais bref, tu sais, il semble être bien fondé puis vouloir amener ses idées.
Exactement, il y a une belle relancée. Puis beaucoup pensaient que QS allait prendre le devant durant cette élection-là, ouais. Parce qu'avec l'Université Laval, le Cégep, mm-hmm. Bref, il y avait une grosse communauté étudiante, mais c'est le Parti québécois qui a remporté, ouais, haut la main. Donc,
en même temps, c'était une partielle. On dirait que je ne sais pas c'était quoi le pourcentage de vote là, aussi, mais habituellement, c'est toujours un peu plus bas aussi que les vraies élections normales. Fait que, à voir. De toute façon, on ne passera plus aux élections pendant au moins 3-4 ans. Fait que...
C'est ça. Donc, ouais. On passe à autre chose.
Oui, exact. Et en terminant, nouvelle internationale, on a parlé il y a deux semaines du blocage, du quasi-blocage de la Chambre aux États-Unis, mais là, il y a des enjeux concernant le président de la Chambre.
C'est ça. Donc, la paralysie du Congrès qui a été finalement évitée grâce à l'accord qui a été adopté par Kevin McCarthy a mené à sa destitution. Donc, vous êtes sans savoir qu'il y a une motion qui est passée par Matt Gaetz pour destituer le président de la Chambre, Kevin McCarthy. Et cette motion-là, elle a passé avec une majorité d'appui des démocrates et quelques républicains. 8 républicains, pour être plus précise. Donc, le problème, c'est la division au sein du Parti républicain entre les républicains d'extrême droite et les républicains plus modérés. Alors là, on est dans un enjeu où est-ce qu'on était censé élire un nouveau président de la Chambre le 10 octobre. On est rendu le 16. Il n'y a toujours pas de président de la Chambre qui a été élu. On est sans speaker. Alors, c'est le speaker temporaire qui est là pour en ce moment, mais il ne peut pas adopter de loi. Il ne peut ni faire passer des projets. Donc, l'enjeu, c'est que l'accord temporaire budgétaire qui a été adopté récemment va expirer le 17 novembre. Donc, il faut absolument trouver un nouveau speaker bien vite pour être capable de re-entamer les négociations et qu'on puisse prolonger l'accord budgétaire encore une fois.
C'est pas un bon temps pour être président d'une chambre ces temps-ci, là, au Canada, aux États-Unis, ça brasse un peu partout. Puis on n'oublie pas non plus qu'il y a des élections qui s'en viennent dans presque un an jour pour jour. Là, donc ça aussi, là, ça va peut-être brasser les choses. Dans ce moment, est-ce qu'avec les midterms, est-ce que c'est maintenant les républicains qui sont majoritaires en chambre?
Oui, c'est ça. Après les midterms, les républicains sont majoritaires, mais de pas beaucoup. Ils sont 221 républicains versus 217 démocrates dans la chambre.
Ouais. Donc, c'est 3 votes de différence si tout le monde a voté contre, justement, McCarthy du niveau démocrate. Donc, ça va être intéressant parce qu'on sait que, je pense que ça va être beaucoup le statu quo du côté des démocrates pour les prochaines élections. Ouais, mais au niveau républicain, ça va brasser un peu là, avec l'aura de Trump qui s'en vient avec, en tout cas, tout le monde qui va se présenter à la chefferie.
Il y avait une républicaine au sein de la Chambre qui a dit que ça devrait être Trump qui devrait prendre le poste de speaker. Puis là, on va se dire, ça n'a pas de bon sens.
C'est lui qui va parler.
C'est c'est ça. Mais en fait, ouais. Il pourrait. Il n'y a pas de loi qui interdit à un membre non élu d'être speaker de la Chambre, mais avec toutes les allégations qu'il y a contre Trump en ce moment, puis aussi sa charge de travail avec son mandat qui veut briller à la présidence.
Puis on s'entend, c'est pas celui qui respecte le plus les institutions. Là. Puis là, ben, ton mandat en tant que président, ben, c'est de faire respecter l'institution, les normes et tout. Fait que non, c'est pas un bon choix. pour la prochaine édition, qu'est-ce que vous nous réservez à l'équipe du collectif?
Donc, à la prochaine édition, on va parler évidemment du conflit israélo-palestinien qui fait la une des journaux en ce moment.
Ouais, génial. On va rester à l'affût. Natacha, merci beaucoup. On rappelle à nos auditeurs et auditrices, la prochaine édition du collectif, c'est disponible lundi prochain. Donc, manquez pas ça en ligne et évidemment là, sur le site web lecollectif.ca. Merci beaucoup, Natacha.
Ça fait plaisir.
À bientôt. On s'en va en musique avec Adib Al-Khalidi. Au retour, c'est la FEUS qui vient nous parler de leurs enjeux.